précédente. Face à ce qu'elle décrit, le moment le plus sombre de l'histoire de l'immigration aux États-Unis, Nora voit le quotidien des familles bouleversées. C'est chez elle qu'elle nous présente Maria. Maria, 32 ans, est originaire du Guatemala. Elle passe l'après-midi chez Nora, qui est devenue la tutrice légale de ses deux enfants, Alma, 11 ans, née au Guatemala, et Alex, 5 ans, née aux États-Unis. Maria, elle, vit en Floride depuis 8 ans. Sans papier, elle élève ses enfants seule désormais, car son mari, Roberto, le père de ses deux enfants, a été arrêté par l'ICE. 29 septembre 2025. Ce matin-là, comme tous les lundis, Roberto part tôt. Il travaille dans le bâtiment. Ses chantiers sont à 1 heure de route de la maison. Depuis quelques semaines, il change ses trajets, fait des détours, évite certains axes par peur de croiser l'ICE. Mais ce matin-là, la police de l'immigration est sur sa route et Roberto est embarqué. Il a juste le temps de passer un appel. L'immigration m'a attrapé et la ligne coupe. Maria est au bout du fil. J'ai ressenti une douleur impossible à décrire. Il est 6h30 du matin quand elle apprend l'arrestation de son mari. Elle ne dit rien à sa fille, attendra son retour de l'école pour lui annoncer que son père a été arrêté. Alma, 11 ans, est en CM2. Elle vivait simplement sa vie d'enfant jusqu'à ce dernier lundi de septembre. Jamais je n'aurais imaginé l'arrestation de mon père. J'avais une vie tranquille. Depuis qu'ils ont arrêté mon père, ma vie n'est plus la même. C'est un père formidable. Elle raconte leur petit rituel de famille, les balades, les jeux, le restaurant préféré. Quand on lui demande comment elle se sent, elle marque un silence et répond avec pudeur. « Je vais bien. » Depuis l'arrestation de son père, Alma pose en boucle la même question à sa mère. « Et si un jour il t'arrête, qu'est-ce qu'il va nous arriver ?» Malgré le risque d'être arrêtée, Maria a fait le choix de continuer d'accompagner sa fille à l'école tous les matins. D'autres familles ont fait un choix différent. Les enfants restent à la maison avec des cours en ligne. Mais Maria ne veut pas de ça pour sa fille. La matière préférée de sa fille, c'est l'éducation physique. Le parc, c'est fini, ils n'y vont plus. Mais à l'école, au moins, elle peut souffler encore, courir, être un enfant. Alors après l'appel furtif de son mari au moment de son arrestation, Maria n'a pas eu de nouvelles de lui pendant au moins 3 jours. Roberto a fini de l'appeler. Par l'appeler, il a été envoyé à Alligator Alcatraz, un centre de détention créé à la halte en juin 2025 par l'État de Floride, financé par l'administration Trump, sans aucun registre officiel de détenus. Roberto a passé 1 mois là-bas avant d'être transféré dans un centre au Texas à plus de 2500 km de chez lui. Pendant 3 mois, avec l'aide de Nora, Maria a tout fait pour le libérer. Contacté un avocat, ils avaient des raisons d'y croire. Roberto n'a pas de casier judiciaire et il bénéficie du programme DACA créé en 2012 pour les personnes arrivées aux États-Unis alors qu'elles étaient mineures. Un statut qui lui permet de vivre et de travailler dans le pays. Puis, la nouvelle tombe. Roberto a été expulsé au Guatemala sans aucun jugement. Nora confirme. Peu importe ce que tu as comme document, asile politique, statut de protection temporaire, programme DATA ou tout autre titre de séjour permanent, aujourd'hui, tout a été anéanti, il n'y a plus de protection. C'est ce qu'elle observe sur le terrain. Ce que nous n'avions encore jamais connu aux États-Unis, c'est à quel point il est facile pour un gouvernement de détruire tout ce que nous considérions comme une protection légale. Et ils détruisent les familles. Roberto au Guatemala, Maria en Floride aux États-Unis. En accord avec son mari, ils ont pris la décision qu'elle reste à Miami avec les enfants, malgré le risque d'être arrêtée à tout moment. Quand on demande à Maria comment elle va, elle dit... La situation n'est pas facile. Maria vend des plats cuisinés à ses voisins pour s'en sortir car c'était le travail de Roberto qui couvrait tout. Le loyer, les sorties des enfants, les courses. Alex a 5 ans, lui, il ne comprend pas. Il croit toujours que son père va revenir. Mais quand est-ce qu'il va venir? Quand ils arrivent à téléphoner à son mari, quand elle a un peu d'argent sur sa carte, Alex prend le téléphone et dit « Il faut que tu reviennes, je veux jouer avec toi. » À sa fille, Roberto dit autre chose. Il dit « Il me dit de prendre soin de moi, de ne pas être triste. » C'est le téléphone actuellement qui fait famille entre le Guatemala et eux. Maria, c'est l'église qui l'a fait tenir. Elle essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine avec ses enfants. L'un des rares endroits où elle s'autorise encore à sortir. Mais dimanche dernier, ils étaient tous prêts et le pasteur lui téléphone. Là, c'est devant l'église, ne venez pas. Plusieurs personnes avaient déjà été arrêtées. Maria raccroche et retourne vers son petit garçon qui lui dit « Bah, pourquoi on n'y va plus ?» Elle lui dit « Mais non, aujourd'hui on va jouer, on ira une autre fois. » Alma, elle, a compris. Un à un, les lieux du quotidien sont devenus trop risqués. Là, c'est partout, même dans les lieux protégés. Nora résume. Lors du premier mandat de Trump, l'ICE opérait aux frontières. Des images avaient déjà choqué le monde entier où l'on voyait des enfants en pleurs se retrouvant seuls, séparés de leurs enfants qui venaient d'être expulsés. Mais pour ce deuxième mandat, l'ICE n'est pas qu'aux frontières, c'est aussi dans la ville. Tu peux être arrêté, frappé, disparaître dans n'importe quelle prison sans que personne ne sache où tu es. Tu n'as aucun droit. Tu n'es plus une personne, tu es un numéro. Nous sommes à la merci d'un gouvernement qui impose par la force, non d'une loi qui protège. Les supermarchés, c'est vraiment des endroits très dangereux. Nora fait maintenant des courses à des familles qui refusent de sortir et elle leur dépose des courses à domicile. Les hôpitaux, des femmes enceintes refusent d'y aller de peur d'être arrêtées. Alors, Nora essaye d'organiser des visites privées, des consultations à domicile. Les tribunaux. Des personnes sortent d'une audience et se retrouvent embarquées directement vers un centre de détention. Ils ont détruit les systèmes et les lieux où on se sentait encore protégé en sécurité, dit Nora. Et Homestead, où ils habitent, quartier du sud de Miami, ben les trottoirs sont vides. Nora connaît ce quartier depuis des années, mais elle ne reconnaît plus. Les commerces tournent au ralenti, les rues se sont tues, les parcs sont vides. C'est une ville fantôme qui s'est totalement transformée. Alors là, ils arrivent à retrouver, elles ciblent les travailleurs qui bougent, les exploitations agricoles, les couvreurs, qui sont interpellés un outil à la main en plein milieu de la journée. Mais alors, dans ces quartiers désertés, quelque chose se passe. Des commerçants ou des voisins qui jusque-là ne s'étaient jamais intéressés aux droits des personnes étrangères veulent aujourd'hui aider. Ils m'appellent et réalisent que ces familles, avec ou sans papier, font tourner l'économie locale depuis des années. Sans elles, leurs commerces ne survivront pas. Et ils s'inquiètent pour leurs propres familles. L'inquiétude s'étend de maison en maison. Tout le monde a un voisin, un ami, quelqu'un qui gardait ses enfants ou entretenait le jardin et qui aujourd'hui n'est plus là. Dans ces quartiers fantômes naît une solidarité nouvelle, une raison d'espérer pour ensemble résister. Car effectivement, Nora ne baisse pas les bras. C'est le moment où nous devons faire vivre l'unité des États-Unis. Nous devons résister, car ce n'est qu'ensemble qu'on pourra faire changer cette situation de chaos. Alex joue avec Alma, sa grande sœur. Maria les regarde et sourit. « Quand je suis venue aux États-Unis, confie-t-elle, je suis venue avec le rêve d'aller de l'avant et d'offrir une bonne éducation à mes enfants. C'est tout ce que je souhaite. » Quand on avait demandé à Alma, qui parle si peu, qui contient tout, quel était son rêve, elle s'était soudain redressée, le regard vif, quelque chose s'était ouvert dans sa voix. « Je veux être infirmière, ici à Miami. » Devant sa mère et Nora, celle qui la protégera si le pire devait arriver, Alma, 11 ans, affirmait déjà une forme de résistance. Voilà ce témoignage bien émouvant.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, effectivement, on remercie Edith qui nous a envoyé ce témoignage, qu'on a passé intégralement dans l'émission et qui est tout à fait parlant sur les atteintes aux droits fondamentaux, là aussi aux États-Unis, avec l'administration de Trump. Ce qui est frappant dans ces témoignages, c'est que quand on remet en cause les droits fondamentaux, et ça c'est historiquement toujours vrai, c'est que de toute façon, les atteintes aux droits fondamentaux amènent toujours la violence, systématiquement. Et les régimes autoritaires, beaucoup ou moins autoritaires, mais tous les régimes autoritaires utilisent toujours la répression et la violence pour essayer d'en venir à leur fin. Donc il faut y penser quand on met un bulletin de vote dans l'urne, quelles que soient les élections. Effectivement, seule la défense des droits fondamentaux permet d'avoir une société, disons, avec des rapports sociaux apaisés. Sinon, c'est toujours violent, la preuve. Je voulais faire un tout petit complément d'information par rapport à ce que nous a dit Edith. C'est que si vous avez été ému par ce témoignage, on ne peut que l'être, il y a une action sur la page d'Amnesty, sur amnesty.fr, le site d'Amnesty France, qui conclut cet article, qui vous propose d'agir, parce que s'émouvoir c'est bien, mais agir c'est mieux, qui vous propose d'agir, c'est une action urgente. C'est un mail, en fait, à remplir et à envoyer, mais c'est très simple, c'est très bien expliqué. C'est tout à fait en bas de la page, sur cet article, et c'est une interpellation de la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, donc une collaboratrice de Donald Trump, qui s'appelle Kristi Noem, et donc on lui rappelle son obligation de respecter les droits fondamentaux des populations immigrantes et de respecter les droits fondamentaux humains. Donc n'hésitez pas à la faire, plus on sera nombreux à envoyer ces mails auprès de l'administration Trump, plus on aura du poids, bien évidemment. On va passer tout de suite à la deuxième pause musicale. Alors, puisqu'on parlait de migrants, j'ai aussi choisi un morceau qui ne parle pas de migrants aux États-Unis, mais de migrants en France, qui date des années 70. Mais vous allez comprendre que la situation en France ne s'est pas beaucoup améliorée depuis ce qui est raconté dans cette chanson.
Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, autre Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tout y quanti, Cameroun et tout y quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues, ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on apprécie si trop, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Et puis un jour la crise nous envahit aussi. On les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. On leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez, monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes. Qu'ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on apprécie le citron, on peut jeter la peau.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission et sur la promotion et la défense des droits humains. Et donc, si vous avez écouté les paroles de cette chanson qui date de François Béranger, qui date des années 70, effectivement, la situation en France par rapport à, comment dire, aux migrants d'origine africaine n'a pas beaucoup changé, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Je pense qu'il y a un certain nombre de responsables politiques actuels, dans certains partis politiques et autres, qui feraient bien d'écouter ça, parce qu'en fait, c'est une description ironique, mais ils continuent à véhiculer les mêmes a priori, les mêmes stéréotypes, et à tenir des discours qui font toujours aussi froid dans le dos que ce que François Béranger traite de façon ironique dans sa chanson. Voilà. En émission d'Amnesty, sans petite interlude culturelle, parce que bon, on vous parle toujours de choses qui sont un petit peu dures, un petit peu compliquées, donc de temps en temps, ça fait aussi du bien d'écouter ce que la culture propose d'un peu plus apaisé. Et je crois que c'était Christian qui voulait vous parler de cinéma iranien.
Eh oui, alors vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé de mon pays, maintenant j'ai parlé d'une de mes passions, le cinéma. Et l'an dernier, le jury du Festival de Cannes a eu la bonne idée de récompenser un film iranien. Et ça tombe bien, puisqu'on parle beaucoup d'Iran ces temps-ci, donc ce film qui s'appelle Un simple accident, que mes amis d'Amnesty ont programmé à Évreux. Et donc,
oui, on a fait une soirée spéciale.
Il y a une soirée spéciale. Ouais. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir. Donc, je vous rappelle juste le thème, c'est quelqu'un qui croit reconnaître la personne qui l'a torturé quelques années plus tôt. Et donc, indécision, qu'est-ce que je fais? Je me venge, je... Voilà. Et en plus, c'est coïncidence, ce film a rappelé un film des années de 1990, pour être précis, de Roman Polanski, qui s'appelle « La jeune fille et la mort », que vous avez sans doute vu aussi, et qui raconte l'histoire de cette femme qui croit reconnaître dans l'invité de son mari celui qui l'a torturée quand elle était prisonnière d'un régime politique extrémiste d'Amérique du Sud, qu'on ne cite jamais dans le film, mais enfin, facile de deviner d'où ça vient. Et c'est pareil, ces tergiversations, que vais-je faire? Est-ce que je le tue? Voilà, très intéressant. Mais je reviens au cinéma iranien, qui... Je vais vous citer quelques films. Ce ne sont pas des films que soutenus forcément par Amnesty, c'est
ça,
des...
C'est pas grave, hein, donc...
Oui. Oui, non, mais qui sont très révélateurs de ce pays, et puis c'est des coups de cœur que j'ai eus. Alors, dans le désordre, La femme qui en savait trop. J'ai bien aimé ce film. C'est l'histoire d'une dame d'un certain âge déjà, qui est témoin d'un meurtre commis par quelqu'un proche du gouvernement. Et donc, elle, c'est pareil, ça va être l'hésitation. Est-ce que je continue à témoigner contre lui, à le faire interner et tout, ou est-ce que j'essaye de sauver ma peau? Parce que elle craint les représailles. Voilà, au passage, le titre original du film est Witness. Et pourquoi ça a été traduit en français par La femme qui en savait trop, je ne sais pas. Oui, mais bon.
C'est les mystères des traducteurs, parfois.
Exactement. Un autre film aussi que j'avais beaucoup aimé, Les graines du figuier sauvage.
Oui, oui.
Voilà.
Je l'ai vu aussi, effectivement.
Didier approuve. Oui, donc,
oui. J'approuve à 150%.
Merci. Donc, le thème, en gros, c'est au début des insurrections en Iran. Une famille, le père est assez partisan des sanctions qui sont prises. Les filles sont très engagées dans la contestation.
Oui.
Et la femme, elle hésite, elle ne sait pas trop. Voilà. Mais j'en dis pas plus parce que je voudrais que vous regardiez ces films. Puis j'en ai un autre aussi, tiens, et en plus, ceux qui ont la chance d'avoir Canal+, vous pouvez le voir, il passe en ce moment. Alors, vous voyez, ça s'appelle « Lire Lolita à Téhéran ». C'est l'histoire d'une femme professeure en fac qui a été licenciée parce qu'elle ne voulait pas porter le voile. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas le thème. Et donc, ce qu'elle fait, elle organise des cours clandestins avec ses étudiantes pour découvrir la littérature occidentale, bien entendu bannie par le régime des mollahs et des ayatollahs, et donc entre autres, bien sûr, Lolita de Nabokov. Voilà, si j'ai réussi à vous convaincre, eh ben, passez une bonne soirée devant ces films ou allez les voir au cinéma. Et je trouve que ce cinéma iranien mérite d'être connu, surtout quand on sait que souvent il est filmé clandestinement,
oui,
en cachette,
c'est ça,
et que ces gens-là risquent leur vie. Ça a été le cas aussi pour le cinéma turc il y a quelques années, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, je rends la parole à mon ami Didier.
Non, mais tu peux la garder, il n'y a pas de souci. Non, c'était très intéressant, effectivement. Écoute, moi, je vais essayer de voir ce film que je ne connais pas, Lire Lolita à Téhéran, effectivement, ouais. Voilà. Et il y a un autre film qui m'est revenu en mémoire pendant t'écoutant parler. Mm-hmm. Mais par contre, je n'ai plus du tout, c'était aussi un film iranien, je n'ai plus du tout le titre en tête. Mais bon, ça peut se retrouver, je me souviens, en fait, la thématique du film, c'était effectivement comment... c'était plusieurs séquences différentes, hein, plusieurs scènes différentes et plusieurs situations différentes, voilà. Et c'était comment peut-on effectivement dans la vie quotidienne, par idéologie, par croyance ou par indifférence ou par toute autre raison, comment peut-on passer à un acte violent? Comment peut-on provoquer un acte violent qui va nuire à la vie des autres et sans qu'on se pose trop de critères moraux? Et je me souviens de la première scène qui m'avait frappé dans ce film. Encore une fois, je n'ai plus le titre en tête, mais on voyait effectivement une famille avec un brave père de famille aller faire ses courses dans Téhéran, rentrer chez lui, faire la cuisine, être parfaitement sociable, s'occuper de ses filles, là aussi, effectivement, passer du temps avec sa femme, enfin, etc., etc. Et on découvre un peu plus loin, dans la même scène, que, en fait, ce monsieur, quand il va travailler, eh bien, c'est un bourreau qui exécute des condamnés à mort. Voilà. Et en fait, visiblement, il le fait sans beaucoup se poser de questions. Et la dernière scène de cette séquence-là, c'est quand il appuie sur le bouton qui vont faire que les corps vont tomber dans le vide et vont être pendus. Et il regarde ça sans broncher et il retourne après chez lui. Voilà. Moi, ça m'avait frappé. Alors, j'ai pas le titre en tête, effectivement. C'est en t'écoutant que ça m'est revenu. Mais ça peut se retrouver, je pense, ce film. Et c'était un film iranien. Comme quoi, effectivement, les Iraniens se posent beaucoup la question, très souvent la question des atteintes aux droits et de la violence et des liens qu'il y a entre ces deux choses. Voilà. On va s'approcher tout doucement du terme de l'émission. On a quelques infos locales. Alors, donc, qu'on va vous donner. Il y a notre prochaine émission, déjà en direct sur l'antenne de Principe Actif. Ben, ce sera en toute fin de mois, puisqu'on est de retour en direct à 19h jusqu'à 20h, le mardi 31 mars, dernier jour du mois. Donc voilà, on le termine. Et puis, puisqu'on parlait de cinéma, ça tombe bien, on a effectivement programmé, là, tout à fait récemment, alors c'est un petit peu plus loin dans le temps, mais vous pouvez déjà, déjà noter la date, le jeudi 9 avril, à 19h15, on réorganise à nouveau une soirée cinéma spéciale avec au cinéma Pathé ici à Évreux, avec un film qui s'appelle, alors c'est tout, son titre est tout à fait ironique, c'est un film soutenu par Amnesty, là, un film documentaire qui n'est pas du tout, qui est sorti au début de l'année mais qui n'est jamais passé à Évreux, et qui s'appelle « Tout va bien ». Et donc, alors le thème de ce film, encore une fois, c'est un documentaire. Hein, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui sont interviewés et qui vivent dans le réel. Ce sont des migrants, là aussi, venus d'Afrique, pour la plupart, qui arrivent en France après avoir traversé tout ce qu'on sait de parcours particulièrement difficiles et dangereux à travers l'Afrique, à travers le Sahara, à travers la Tunisie. Christian vous en parlait tout à l'heure, à travers la Méditerranée, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder de nombreuses fois dans nos émissions, et qui arrive en France et qui commence à avoir effectivement à faire les démarches pour obtenir des titres de séjour. Ce sont en général des jeunes majeurs, des jeunes mineurs isolés, enfin, etc. Ils arrivent à Marseille, ils font les premières démarches et ils s'aperçoivent que, bah, contrairement à ce qu'ils croyaient, la situation pour acquérir des droits en France est bien plus compliquée que ce qu'ils pensait. Voilà. Et donc ce film s'appelle Tout va bien. Effectivement, c'est, encore une fois, c'est tout à fait ironique. Donc ce sera le jeudi 9 avril à 19h15 au cinéma Pathé. Donc on compte sur vous pour être présent à cette soirée et cocher déjà la date sur votre calendrier. Voilà. Je ne sais pas si Christian, tu avais un autre petit mot à dire aux auditeurs et aux auditrices par rapport à ton vécu de radio, si tu veux en parler.
Ben écoutez, puisque j'ai commencé tout à l'heure par un anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, j'ai envie de parler d'un anniversaire que nous allons fêter au mois d'octobre cette année. Les 40 ans de la loi Veil sur la légalisation, le droit à l'avortement. Ça, il souffle tout le jour.
Hein, oui, c'est ça. Ah, c'est plus fort que moi.
C'est une date très importante. Et alors, je me suis permis de regarder sur les pays, tous les pays de l'Union européenne acceptent maintenant l'avortement.
Oui.
Avec des
restrictions plus ou moins importantes. Hein. En Pologne, c'est pas simple. Hein.
Pologne et Malte, non. C'est les deux pays. Même l'Irlande, maintenant, a voté largement pour.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que tu as bien fait d'en parler. Alors, moi, j'avais pensé aborder un autre sujet, mais on n'aura pas le temps, donc on en parlera beaucoup plus longuement la prochaine fois. C'est bien sûr ce qui se passe avec le déclenchement des hostilités entre les États-Unis, Israël et l'Iran, et toutes les catastrophes que ça engendre, et toutes les atteintes aux droits humains. Juste un petit commentaire, parce que le communiqué est très long, donc je ne vais pas m'amuser à vous le dire maintenant. M'amuser, c'est un très mauvais mot, mais je ne vais pas me lancer à le lire maintenant. Juste simplement, c'est que dans les premières attaques qui ont eu lieu aux États-Unis, je crois que c'était l'aviation américaine en Iran, les premiers bombardements, il y a eu une école en Iran qui a été bombardée. L'administration Trump a prétendu dans les jours qui ont suivi que c'était pas eux qui avaient bombardé, effectivement, alors qu'en fait, là, Amnesty International vient de publier les preuves, c'est aujourd'hui, hein, c'est très récent, vient de publier les preuves, oui, c'est bien l'armée américaine qui a bombardé cette école, qui a fait plusieurs dizaines de morts parmi les écoliers et écolières qui étaient dans les locaux. Et en fait, l'explication, c'est que les États-Unis ont utilisé l'intelligence artificielle pour cibler cette école, parce qu'elle était juste à côté d'un centre militaire des gardiens de la Révolution que eux visaient. Et comme ils n'avaient pas remis, l'intelligence artificielle n'avait pas remis à jour les données, eh bien, en fait, ils ont bombardé et la base militaire des gardiens de la Révolution et l'école qui était juste à côté. Voilà. Donc, c'est bien les Américains qui ont commis, là, effectivement, leur premier crime de guerre. Ça s'appelle comme ça. Donc voilà, on abordera beaucoup plus longtemps la prochaine fois, dans la prochaine émission, je pense, cette catastrophe humanitaire qui a lieu, là aussi, sous nos yeux, avec le déclenchement de la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Voilà. Donc on se retrouve le